La Première.
Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Jusqu'à 20h, nous vous proposons la diffusion de deux émissions concédées. Tout d'abord, Il était une fois, qui sera suivi vers 19h35, d'Orthodoxie. L'information revient à 20h. Bonne soirée sur La Première.
Il était une fois. Une production des médias catholiques. Manu Van Leer.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission Il était une fois qui sera consacrée aujourd'hui à la pensée du père Joseph Moin. Joseph Moin est un jésuite français de 98 ans et dans le monde francophone, il est considéré comme un des plus grands théologiens de notre temps. C'est donc de cette grande figure du catholicisme dont il sera question aujourd'hui à travers plusieurs extraits de l'entretien que Joseph Moin a récemment accordé à Charles Delay. Et puis pour en parler, nous recevons aussi Jean-Paul Gallet. Jean-Paul Gallet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Jean-Paul, vous avez 38 ans, vous êtes juriste de formation et depuis peu docteur en théologie. Mais la raison principale de votre présence aujourd'hui, c'est que le sujet de la thèse, de votre thèse, était justement la rationalité de la théologie, selon Joseph Moin. Alors Jean-Paul, j'ai envie de vous demander pour débuter, ce qui vous a poussé d'abord à vous intéresser en particulier à ce théologien, à Joseph Moin.
Oui, alors au départ, il y a toujours un événement qui est peut-être un peu anecdotique, mais je crois que l'esprit parle souvent par des petits détails. Donc j'ai fait un mémoire avant ma thèse sur la pensée de Bernard Cesbouet, un autre jésuite que Joseph Moin connaît bien aussi, évidemment. Et j'ai tout de suite été assez séduit par son propos, notamment sur la religion et sur la nécessité de la relativiser lorsqu'il s'agit de parler du christianisme. Et puis il y a bien entendu des choses peut-être plus profondes là derrière, et notamment une expérience d'église, beaucoup d'expériences d'église je pense, qui m'ont alerté sur différents soucis, problèmes de l'église qu'on peut résumer, en tout cas en ce qui me concerne, en termes de déshumanisation je pense. Et à ce titre, le concept clé de la théologie de Joseph Moin, c'est-à-dire l'humanisme évangélique ou la présentation du christianisme comme un humanisme inspiré par la croix et la résurrection, m'a évidemment profondément intéressé et rejoint dans cette expérience d'église. Et puis il y a, je pense, un dernier élément, peut-être une intuition forte, celle qui consiste à souligner l'importance de l'intelligence de la foi dans l'acte de foi, dans la vie de foi. Et ça, Joseph Moin a toutes sortes de considérations à ce sujet, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce thème que vous avez rappelé, la rationalité de la théologie selon Joseph Moin.
Comment est perçu Joseph Moin dans l'Église de manière générale? Quelle est son image?
Je pense qu'il bénéficie d'un large crédit, vous l'avez souligné. Personne ne peut nier l'importance de sa pensée pour la théologie de notre temps. Maintenant, je pense qu'il se situe sur cette ligne de fracture dont j'ai déjà eu l'occasion de parler en d'autres lieux, dans l'Église. Accepte-t-on et jusqu'où va-t-on dans une certaine critique de la tradition de l'Église et surtout de sa posture concrète? Que ce soit en interne, en Église ou vis-à-vis du monde. Et à ce sujet-là, évidemment, il est plus ou moins bien perçu selon que l'on accepte d'aller plus ou moins loin dans cette critique.
Justement, une pensée critique, c'est accepté dans l'Église?
Ça dépend par qui. Je pense que les choses tournent beaucoup autour du concept de tradition. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé ce thème dans ma thèse, parce que j'ai l'impression que en fonction que l'on considère la tradition comme quelque chose d'immobile, une sorte de millefeuille qui s'empile, auquel on ne peut pas toucher, eh bien, on admettra plus difficilement la critique. Si on admet au contraire, et c'est mon cas, que la tradition c'est le mouvement, c'est le changement pour permettre justement à la révélation de poursuivre sa route dans l'histoire, alors la critique est plus aisément acceptée, ne serait-ce qu'intellectuellement.
La tradition s'oppose à quoi?
La tradition, dans le sens où je l'ai décrite, d'une dynamique permanente de renouvellement, s'opposera nécessairement à l'immobilisme, précisément. Et c'est, je crois, là l'enjeu, vraiment, de la prise de conscience à laquelle, je pense, Joseph Moin nous appelle.
Le dogme, c'est l'immobilisme également?
Non, sauf si on considère en effet qu'on se trouve dans la première définition de la tradition que je vous ai donnée. Par contre, si on considère qu'un dogme est un guide de lecture de cette tradition qui est là pour aider les chrétiens à un moment donné de l'histoire et à faire une précision sur un point de foi, et que ce qui compte, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans la pensée de Moin, ce sont les intuitions de foi qui sont sous ce dogme, sous la lettre du dogme. À ce moment-là, il n'y a pas de souci à considérer que le dogme est utile à la pensée de la foi.
Je vous propose à présent un premier extrait de l'interview de Joseph Moin, qu'il a récemment accordé à notre confrère Charles Delay. Il est notamment question de la naissance du christianisme, on l'écoute.
Si le Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, notre foi est vaine. Cela veut dire que c'est vraiment l'essentiel. Comment vous traduiriez cet essentiel de la résurrection du Christ?
C'est son caractère universel, précisément.
parce que elle ouvre un avenir illimité à l'humanité entière, non pas à quelques religions particulières qui en seraient les bénéficiaires privilégiés, mais à tous les hommes. Donc c'est un dessein de Dieu nouveau, inattendu, qui se révèle en Jésus, à savoir un Dieu qui ne vient pas s'attacher les hommes par la puissance des signes qu'il manifeste, ni les attacher à lui par la force de ses lois, de ses décrets, mais uniquement par la révélation de son amour. Et qui révèle cet amour sur la croix de Jésus, précisément en laissant le Christ, son Fils, aller à la mort sans intervenir, pour que tous les hommes croient à l'amour de Dieu qui guide son plan sauveur.
Vous dites universel, et pourtant cette résurrection va faire naître une religion particulière, le christianisme.
Oui, pour une raison simple, c'est qu'elle deviendra la religion de ceux qui croient à ce message. Et c'est un message historique qui prend sa naissance à un certain moment du temps, dans un lieu bien déterminé de l'Empire romain. Mais ensuite, c'est un message qui appelle tous les hommes à un acte de liberté, à un acte de rupture. Comme Jésus l'avait prédit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division. Parce que croire en ce Dieu, c'est automatiquement se séparer des autres qui n'y croient pas. Mais nous devons mettre en relief le caractère universel de cette foi, en montrant que c'est bien le signe d'un amour de Dieu pour les hommes. C'est cela qui est le propre de la révélation chrétienne.
Et aujourd'hui, l'enseignement des premiers siècles chrétiens est-il encore valable? Nous sommes passés par des siècles de complexification de la religion. Peut-on revenir à cet essentiel-là, des simples signes?
C'est quand même cet essentiel-là qui est la vérité profonde, fondamentale de l'Église et de notre foi chrétienne. Quand nous nous demandons, sommes-nous fidèles à l'appel de Dieu, nous devons nous reporter à ces premiers temps de l'Église, c'est-à-dire à ces documents que sont les évangiles et les écrits des apôtres, mais aussi à la manière dont cela va être reçu par l'ensemble des chrétiens dans la tradition. Ça ne veut pas dire qu'ils seront toujours reçus exactement comme ils devraient l'être.
Et c'est essentiel, vous en parlez en termes d'évangile, et vous avez même cette expression, un humanisme évangélique.
Nous avons petit à petit oublié, car nous voyons ce phénomène étrange au regard de l'histoire, que l'homme contemporain, disons l'homme occidental, semble bien se détacher de la foi en Dieu, au point que Dieu n'a plus de sens pour lui. Croire en Dieu, c'est croire à un démiurge tout puissant, un génie qui intervient comme ça. Non. Et donc nous perdons le sens. Alors nous avons besoin de retrouver le vrai sens de la foi chrétienne. Ce qu'il y a de propre à la foi chrétienne, c'est que Dieu n'est pas un être céleste. Dieu est le Dieu des hommes. Est le Dieu des hommes. C'est pourquoi il a toujours fait route à travers l'humanité. C'est pourquoi il est intéressant de retrouver sa parole, même à travers les mythes païens, les traditions religieuses de l'Antiquité, qui nous transmettent les premiers appels de Dieu. Dieu les appelait à la liberté, à trouver la liberté en Jésus, c'est-à-dire à s'accomplir en homme, en Jésus, à travers la mort et la résurrection de Jésus. Qui signifie quoi dans l'enseignement de Paul? Ça signifie la volonté de Dieu de rassembler tous les peuples humains. Le juif et le grec, disent-ils, les peuples ennemis de l'époque de Jésus. Et de les rassembler tous en un seul homme, donc de constituer une humanité Dieu. Le projet de Dieu sur l'homme est un projet d'humanité qui va se manifester par l'humanisation de son Fils, ce que nous appelons l'incarnation qui se prononce dans l'habitation du Saint-Esprit en nous, qui fait l'unité de l'Église. Et quel est l'effet de l'unique Esprit de Dieu? C'est de nous reconnaître tous frères dans un seul Dieu que nous considérons tous comme étant semblablement notre Père.
Jean-Paul Gallet, votre réaction d'abord à ces propos de Joseph Moin?
Je suis content d'avoir parlé en tout premier lieu de l'humanisme évangélique, parce qu'on est vraiment au cœur du problème. Joseph Moin redécrit vraiment, en des mots très brefs, très clairs, très concis, toute la trajectoire de sa pensée. Il y a un projet d'humanisation de Dieu pour l'homme depuis la création. Et donc l'incarnation n'est pas simplement la venue d'un être supraterrestre à un moment donné de l'histoire, en la personne de Jésus-Christ, c'est plutôt l'aboutissement d'un long processus d'incarnation qui s'étire déjà depuis la création, à travers toute l'histoire de l'humanité, les mythes païens, l'histoire d'Israël, et puis qui culmine évidemment en Jésus-Christ. Et quand on redécouvre la profondeur, la beauté de ce projet, on comprend que, en effet, comme il le dit, le Dieu chrétien est le Dieu des hommes avant tout.
Le Dieu des hommes. Alors, Joseph Moin dit également que la foi chrétienne est source de division. Croire en Dieu, c'est se séparer de ceux qui ne croient pas. Est-ce que ce n'est pas une chose commune à toutes les religions ?
Je pense qu'il y a deux types de ruptures à envisager. Il y a les ruptures que je qualifierais d'authentiques, et j'en ai parlé comme ça en tout cas dans ma recherche, une rupture authentique de tradition qui permet vraiment à la révélation de poursuivre son chemin. Et c'est en ce sens-là qu'il faut accepter cette nouveauté du Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu de tous les hommes, un Dieu qui n'est pas comme tous les autres dieux des religions. Donc ça, c'est la bonne rupture à laquelle, je pense, nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. Et puis, il y a les mauvaises ruptures, celles que, justement, génèrent les religions. Et c'est pour ça que moi, se méfie énormément du paradigme religieux. Et on constate en effet que la religion divise parce qu'elle est basée sur des codes, sur des lois, sur des doctrines. Et je ne pense pas qu'on puisse jamais être d'accord à travers l'humanité, autour d'une définition du divin, autour d'une manière de se rapporter à Dieu, ce qui permet de mettre en cause aussi un certain projet œcuménique, centré exclusivement sur la doctrine et sur la réflexion. Je ne pense pas que quand on aura établi une définition de ce qu'est le Dieu chrétien, on sera plus frère ou on sera plus sœur. Et donc Joseph Moin nous ramène à cet essentiel dont il nous parlait, ce projet d'humanisation. On fait église, l'humanité est vraiment unifiée lorsqu'elle pratique cet humanisme évangélique et que nous sommes reliés en tant que frères et sœurs de Dieu en Jésus-Christ.
Mais donc, la division n'est pas propre à la religion chrétienne?
La division n'est pas propre à la religion chrétienne, elle est propre au phénomène religieux en tant que tel. Et le christianisme a justement les ressources pour se dégager de ce paradigme religieux qui génère tant de divisions.
Alors, il évoque également le plan d'un Dieu sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais que le salut, pour Joseph Moin, se jouera justement dans cette pratique de l'humanisme évangélique, et qu'il ne faut pas envisager d'un point de vue chrétien que le salut soit assuré de manière magique par uniquement le culte, uniquement le rite, comme justement à nouveau le font instinctivement les religions. Ce qui ne signifie pas que le rite et le culte est totalement invalidé dans la pensée de Moin. Pas du tout, il a sa place en tant qu'expression de ce désir que l'homme a de tendre vers ce Dieu dont il pressent qu'il peut le sauver. Mais le salut, il va se jouer justement parmi les enjeux, les combats de l'humanité, les souffrances et la façon dont je me présente comme chrétien auprès de mes frères en humanité.
Donc en termes simples, il ne suffit pas d'aller à la messe, de prier pour être un bon chrétien?
Bien entendu.
Et pour se sauver?
Et pour se sauver, certainement pas.
Alors je vous propose à présent un deuxième extrait de cette interview. Il est question ici de porter le message de l'Évangile aujourd'hui.
Père Joseph Moin, ce message lourd et merveilleux à la fois, vous le voyez porté encore aujourd'hui par des communautés chrétiennes dans notre Europe, dans votre France déchristianisée?
Alors, je le pense, oui, parce que l'Église ne manque pas de donner des signes d'amour, ne serait-ce que à travers tous ces missionnaires qu'elle envoie partout, à travers ses œuvres. On ne peut pas oublier que l'Église, c'est l'Église qui a fondé l'enseignement des pauvres, des petits, qui s'est occupé des malades, des mourants. Pensez à tous les ordres religieux, de femmes notamment, par lesquels l'Église exerce l'amour de Dieu de manière très concrète sur les individus que nous sommes. Donc cela est bien aussi le message que nous envoyons au monde. Leur annoncer l'Évangile, ce n'est pas d'abord leur dire « faites-vous baptiser ». sinon vous irez en enfer. Non, non, non. Le message de l'amour, c'est de nous dire, aimez-vous les uns des autres. C'est à travers cet appel-là, mais que les chrétiens doivent traduire de façon très concrète, que passe la révélation que Dieu est amour.
Et cet amour de Jésus a suscité des communautés un petit peu partout. Aujourd'hui, pénurie de prêtres, mais les communautés sont-elles encore vivantes?
Alors c'est là où nous devons quand même aussi faire un examen de conscience. Est-ce que les communautés chrétiennes signifient toutes par priorité l'amour que Dieu nous porte? Cela, hélas, ce n'est pas évident. Car le premier visage de l'Église, c'est peut-être d'être une religion. Une religion sévère, une religion autoritaire. C'est d'être un corps particulier, donc d'être séparé du reste du monde. Peut-être même d'être plutôt une cause de division, comme le sont souvent les religions. Alors, il faudrait donc que toutes les communautés chrétiennes aient pour premier souci de manifester cet humanisme évangélique, comme vous venez de le dire, et cet amour, le manifester. Alors, il faudrait réfléchir aujourd'hui comment perdre ce que notre visage religieux peut avoir de trop austère, sinon même de faux, de trop. On s'aime entre nous, mais pas les autres. Alors, voilà à quoi il faudrait réfléchir. Il faudrait présenter au monde un aspect plus humain. On dit que les premiers chrétiens étaient frappés par, en se disant, voyez, en disant des chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Oui, il faudrait manifester cela, qu'une former des communautés au sens propre du terme, des communautés d'affection, des communautés d'esprit, de réflexion, et des communautés accueillantes, même pour ceux qui ne pratiquent pas notre foi, donc des communautés où on pourrait inviter ceux-là même qui se disent incroyants, mais aussi où on établirait la communion avec ceux que la loi de l'Église paraît exclure, comme le sont les divorcés remariés, les homosexuels, avoir des communautés qui traduisent cet amour universel de Dieu pour les hommes.
Jean-Paul Gallet, ouvrir la communion aux divorcés, aux homosexuels, Joseph Moin défend des idées progressistes, c'est une habitude pour lui?
Oui, mais à nouveau, comme vous l'entendez, c'est fondé, je pense, dans une conception de l'Évangile, et donc dans ce qu'on appelle dans notre jargon un peu une théologie fondamentale, dans une conception de la révélation chrétienne. C'est pas simplement une demande, une revendication, un appel à la révolution, pour le plaisir de changer des règles. Au contraire, on voit bien l'écart qu'il prend par rapport à la loi. Il suffit de relire saint Paul et tout son propos par rapport à la loi pour comprendre que tout ça est envisageable et que à travers les siècles, on est peut-être tombé beaucoup trop dans une certaine casuistique, c'est-à-dire cette manière de préciser ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Je pense que c'est tout ça, malheureusement, que notre culture rejette aujourd'hui. Et je pense que s'il y a une question à se poser fondamentale, c'est la suivante. Pourquoi, après 2000 ans de christianisme, de présence chrétienne en Europe, notre culture, qui est imprégné de cette présence chrétienne, finit par rejeter le christianisme? Et c'est en ce sens-là, je pense, qu'on peut comprendre l'appel à l'examen de conscience dont parle Joseph Moin et que nous venons d'entendre.
Oui, un examen de conscience qui concerne par exemple les communautés, il en parlait. Il rejoint en cela ceux qui appellent l'Église à changer, à évoluer, vous pensez?
Oui, bien sûr. Maintenant, il y a différents types d'appels à évoluer. Je pense que ce que j'essaie de souligner aussi dans ma recherche, et que malheureusement on ne comprend pas souvent par rapport à Joseph Moin, c'est qu'il a un profond respect de la tradition. Et quand j'ai parlé de rupture authentique tout à l'heure, c'est bien de cela. On ne peut demander des innovations que si on a une bonne connaissance de la tradition et que si on accepte d'être inséré dans cette tradition pour pouvoir nous-mêmes y participer, la remodeler et lui donner un autre cours éventuellement. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de rupture brutale, de tabula rasa par rapport au passé. Il faut toujours retrouver les bonnes intuitions de foi qui nous viennent des origines chrétiennes, dont nous parlons moins, pour les réactualiser de manière nouvelle et différente aujourd'hui, avec la force de l'Esprit-Saint, qui était actif aux origines.
Est-ce que ça veut dire que l'Église s'est éloignée de ses origines, de ses fondements ?
À travers les exemples que le Père Moin mentionne, certainement pas. Donc il parle des ordres religieux, de toutes ces activités d'humanisation, de cette présence auprès des gens qui souffrent. Là, on est au plus proche, évidemment, de ce qu'est le christianisme. Par contre, lorsque l'Église prend un visage trop religieux, trop cultuel, et semble y enfermer un peu le salut des êtres humains, donc, et exclure par fatalement les autres, à ce moment-là, on peut dire qu'elle s'est éloignée de ses fondements, oui.
La société s'est construite aujourd'hui sur le christianisme. Est-ce qu'on peut dire que cette Église, par contre, s'est éloignée de la société qu'on vit, dans laquelle on vit ?
Oui, à certains égards, on doit malheureusement le constater. Et c'est le grand souci de Joseph Moin, c'est la communication, de rétablir ce qu'il appelle les liens de communication entre la révélation chrétienne, l'Église d'une part, et la société occidentale qui le rejette de plus en plus. Et donc, il y a un concept essentiel dans la pensée de Moin, c'est celui-là, c'est la communication. Et la solution, qui n'est pas toute faite et pratique que Moin propose, mais qui à nouveau se situe à un niveau de théologie fondamentale, c'est d'envisager la façon dont nous sommes nous-mêmes en communication à l'intérieur de l'Église. Si notre communication est crédible aux yeux de l'homme contemporain, de l'homme occidental, et si surtout elle est fidèle à la révélation chrétienne, eh bien l'Église retrouvera communication avec le monde.
Et communiquer, ça veut dire transmettre le message, et le message de la foi chrétienne, c'est avant tout l'amour.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut résumer la pensée de Moin à ce niveau-là. Il vient d'ailleurs de le rappeler, et c'est pour ça qu'il tient fort à ces petites communautés de disciples, de lecture de l'Évangile, de revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup moins centrées sur le culte et sur le rite, non pas contre les autres. Ça, Joseph Moin n'est pas du tout dans cette optique-là, mais pour l'Évangile, pour simplement développer autre chose qu'on n'a pas encore osé développer, et puis voir ensemble en Église ce que ça peut donner comme fruit.
Alors en quoi la pensée de Joseph Moin vous a inspiré, vous, dans votre vie personnelle, vous a peut-être fait changer par rapport à votre façon de ressentir la société et le monde ?
Je pense qu'on a... C'est toujours par rapport à la religion que ça se joue. C'est vrai que donc j'ai une éducation chrétienne, peut-être un peu sociologique, un peu comme beaucoup de gens. Et je dois dire que si je regarde il y a 15 ans, 10 ans en arrière, c'est vrai que sans bien m'en rendre compte, j'étais moi-même aussi beaucoup plus dans ce paradigme religieux, sans me rendre compte qu'il n'était plus crédible pour la société, justement. Et surtout, parce que c'est ça qui est quand même fondamental, qu'il n'était pas fidèle à une certaine conception de la révélation chrétienne. Et donc, cette définition du christianisme comme humanisme m'habite de plus en plus et me fait de plus en plus relativiser l'importance donc, des rites et des pratiques cultuelles.
Mais vous partagez une critique par rapport à l'Église ?
Celle-là, je pense qu'elle n'est pas, elle n'est pas différente. C'est la nécessité de changer de cadre, de changer un peu d'univers, de quitter un mode de fonctionnement qui a duré pendant plusieurs siècles et d'essayer autre chose.
S'il devait y avoir un concept, une idée de la pensée de Joseph Moin dont on n'a pas parlé aujourd'hui ou qu'on ne retrouve pas dans ses extraits d'interview, laquelle ce serait pour vous ?
Oui, il y a une phrase qui m'a assez bien habité pendant ma recherche. C'est l'une des définitions qu'il donne de la foi. Il en donne beaucoup. Mais Joseph Moin attire l'attention sur la distinction qu'il y a entre la foi, la croyance et le sentiment. Et il précise que sans son aspect critique, précisément, la foi risque de n'être qu'une simple opinion, une simple croyance, ou, comme il l'appelle, un sentiment irréfléchi. Et donc il y a un appel qui est lancé à tout chrétien d'intégrer cette dimension, cette importance de la raison qui habite la foi. Et je pense également à l'appel général qu'il lance finalement à tous les chrétiens de prendre voix dans l'Église et donc de créer ensemble une véritable opinion publique dans l'Église.
Jean-Paul Gallet, un tout grand merci d'être venu partager votre analyse de la pensée de Joseph Moin. Merci également à Martine Mailleux pour la coordination de cette émission et à Bawan Dean pour la technique, à la réalisation et à la présentation Manu Van Leer. On se quitte aujourd'hui avec Ozark Henry et le titre We Were Never Alone. Très bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Au revoir Jean-Paul et encore merci.
Merci, au revoir.
We've quoted the more, but the hair has disappeared. We know, but if the sea will not part well, when do we know? We were never. Every new delivery.